France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Vendredi 30 octobre, bonjour et bon réveil, bienvenue sur France Inter. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la France meurtrie après l'attentat de Nice hier. Trois fidèles tués par un islamiste dans la basilique Notre-Dame. Retour dans cette édition sur le parcours du terroriste, portrait de ses victimes et réactions sur place. Les autres titres, Marion.
Face au coronavirus, voici venu le temps du reconfinement. Des milliers d'habitants des villes fuient le béton et le télétravail doit devenir la norme dans les entreprises, prévient le gouvernement. Et à la fin de ce journal, de l'énergie brute pour pouvoir tenir. Sublime concert du pianiste Keith Jarrett.
Rendez-vous et invité de France Inter ce matin à 7h45. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, sera notre invité. À 8h20, cinquième et dernier volet de nos grands entretiens en compagnie des romancières et romanciers américains. Avec François Bunel, nous recevons Louise Erdrich dans ses romans. Elle transmet depuis 40 ans maintenant l'héritage et la culture amérindienne.
France Inter.
Des milliers de militaires en plus dans les rues, présence renforcée autour des églises et cimetières. La France se réveille choquée et sous haute surveillance après l'attaque terroriste d'hier matin à Nice. Trois fidèles tués dans la basilique Notre-Dame de Nice. Attentat terroriste, ça ne fait aucun doute, c'est la France qui est attaquée, estime le président de la République. On en sait plus ce matin sur l'attaquant. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Nice. Le suspect est un ressortissant tunisien de 21 ans.
Oui, il est arrivé par l'île de Lampedusa en Italie le 20 septembre dernier avant de débarquer à Bari le 9 octobre. Un papier de la Croix-Rouge italienne a d'ailleurs été retrouvé sur lui avec sa date de naissance, sa nationalité confirmée depuis. Mais ce qu'on ignore, c'est comment il a rejoint la France. Les enquêteurs retrouvent sa trace moins de 2 heures avant l'attaque, 6h47 hier matin en gare de Nice. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit retourner sa doudoune, changer de chaussures, puis se diriger vers la basilique de Notre-Dame à 400 mètres de là. Il y entre, 8h29, l'attaque dure un peu moins d'une demi-heure. Avec un couteau de 30 cm, il égorge une paroissienne, le sacristain, puis en blesse une autre qui s'enfuit avant de mourir dans un restaurant. Ce parcours meurtrier prend fin quand 4 policiers pénètrent dans la basilique. Ils tirent 14 fois. L'assaillant, hospitalisé, opéré, est toujours entre la vie et la mort. Il est inconnu des services de renseignement. Dans la basilique, il a laissé un Coran, 2 téléphones et un sac avec 2 autres couteaux.
Mathilde Vinceneux en direct de Nice pour France Inter. Un sentiment domine ce matin, c'est l'émotion. Émotion au sein de la communauté des chrétiens. Émotion à Nice, ville encore marquée par l'attentat de la promenade des Anglais et ses 86 morts il y a 4 ans. Des Niçois nombreux à venir se recueillir hier à la lumière des bougies au pied de la basilique. Parmi eux, Ofrane, niçoise musulmane et voilée d'une 50aine d'années.
Je ne veux pas en France que ça se répète encore. C'est pas des musulmans et je refuse. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, il n'a qu'à venir me couper aussi la tête. Je m'en fous. En France, il n'y a pas de place pour ces gens-là. On va rentrer dans une église, on coupe la tête. Ça, c'est pas possible. Je suis musulmane, je n'ai pas peur de ces gens-là. Ces connards-là, s'ils ont le courage, ils n'ont qu'à venir me voir. C'est des voyous, des gens qui se considèrent comme des musulmans. C'est pas des musulmans. C'est pas possible!
Cette niçoise de confession musulmane avec Simon Soubieux de France Bleu Azur, le président du Conseil français du culte musulman, appelle à fermer toutes les mosquées et à annuler les festivités de Maolid qui célèbrent la naissance du prophète. Le terroriste a donc tué 3 personnes hier, une femme d'une 60aine d'années, une autre dans la 40aine, une brésilienne, et le sacristain, laïc en charge de l'intendance à la basilique, un quinquagénaire très apprécié des paroissiens, son portrait par Boris Allier.
Un homme au visage souriant, les cheveux poivre et sel, une barbe naissante, voilà l'image qui s'affiche dans les journaux. Vincent Loquet, était comme un pilier de la basilique, selon Thierry, chanteur au sein de la chorale de la paroisse.
C'était un homme vraiment sympathique, très discret, qui était quelque part un pilier rassurant de la basilique, parce qu'après les attentats de 2016, nous avions besoin d'être un peu sécurisés à l'intérieur de cette basilique. Eh bien Vincent faisait déambuler tout autour de la nef, d'une façon très, très bienveillante. C'était vraiment quelqu'un de rassurant, de sympathique, de sécurisant. Et c'est vraiment un assassinat odieux, insoutenable.
Une douleur partagée par Elias, lui aussi choriste, au micro de Thibault Lefebvre.
Vincent, il est capable de prendre sa voiture. Si vous êtes un de ses amis, il vient vous aider de tout ce que vous voulez. Il était assez viable. Et moi, je ne le verrai plus à cause des imbécilités de l'être humain. parce que la religion ne demande pas de faire ces genres de trucs abominables.
Vincent Locquès devait fêter ses 55 ans ce vendredi. Il laisse derrière lui une épouse et deux enfants.
Et s'il survit, le terroriste de la basilique Notre-Dame pourra-t-il être présenté à la justice? En tout cas, les audiences continuent dans les tribunaux, précise le ministre de la Justice, ce malgré le reconfinement qui démarre aujourd'hui.
7h05, la suite du journal de Marion Lourd. Le reconfinement, justement, Marion, c'est l'autre grand titre de l'actualité ce matin.
Attestation obligatoire depuis aujourd'hui pour sortir de chez vous et déplacement limité à 1 heure et 1 kilomètre de votre domicile. Objectif, ralentir l'épidémie de coronavirus. Près de 48 000 contaminés en 24 heures et 235 morts. Le reconfinement rappelle le confinement du printemps, redite insupportable pour certains habitants des grandes villes qui ont décidé de se mettre au vert. 733 km de bouchons cumulés en Ile-de-France en début de soirée hier et sur le bitume, notre reporter Anaïs Martin-Covy.
Jean-Baptiste a l'air pressé. Il a devant lui presque 800 km pour allier Paris à Montpellier en voiture.
Je préfère être quand même bloqué en province que sur Paris. On pourra au moins un peu se balader. Et du coup, ça sera beaucoup plus agréable que de devoir rester dans un appartement toute la journée.
Devant une pharmacie, Manu attend le résultat de son test antigénique avant de se confiner en dehors de la région parisienne. S'il était parti à Arcachon pendant le premier confinement, cette fois-ci, il a décidé de rester plus proche de la capitale.
Pour apporter mon aide à mon ami et surtout aussi pour éviter la solitude à Barbès. Là, il y a l'école, donc les enfants seront à l'école et nous en télétravail.
Dans sa voiture, Stéphanie est sur le départ. Elle n'a pas bien vécu le premier confinement, alors pour le second, elle se rend chez ses beaux-parents près de Lyon.
C'est vrai que c'est un risque de vouloir partir et peut-être apporter le virus dans un autre endroit, mais aujourd'hui c'est le choix qu'on a décidé de faire pour pouvoir mieux vivre ce confinement. C'est vrai que c'est peut-être un peu égoïste, mais après, on a fait le nécessaire, on a fait attention.
Au printemps, ce sont près de 200 000 Parisiens qui avaient décidé de se confiner au vert.
Anaïs Martin-Covy de France Bleu Paris. Autre type de réaction, quelques manifestations en France contre ce reconfinement à Paris, Toulouse, Castres et Besançon. Confinement, le retour, celui-ci est un peu différent du dernier tout de même. Le gouvernement l'a précisé hier, il s'agit de continuer à faire tourner l'économie. Les écoles, collèges et lycées continuent de fonctionner, mais masques obligatoires pour les enfants de plus de 6 ans. Côté commerce, l'exécutif encourage le développement des commandes en ligne à récupérer sur place. Les entreprises sont très fortement incitées à mettre en place le télétravail par la voix d'Elisabeth Borne, ministre du Travail.
Dans toutes les entreprises, les travailleurs, que ce soit des salariés comme des indépendants, dont les activités peuvent être exercées à distance, doivent télétravailler. Le télétravail n'est pas une option. Cette obligation sera inscrite dans la nouvelle version du protocole national en entreprise.
Avec ces dispositifs, l'activité en France ne devrait chuter que de 15% pendant le reconfinement, contre 30% au printemps, estime le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui promet 15 milliards d'euros d'aide par mois pour soutenir les entreprises. Les salariés des activités essentielles, vigiles, caissières, éboueurs, livreurs, attendent encore la reconnaissance pour leur mobilisation du printemps. Sujet discuté aujourd'hui lors de la réunion sur le plan de relance. Témoignage dans le journal de 7h30 sur Inter. Reconfinement, mode d'emploi, un doute, une question. Rendez-vous sur notre site franceinter.fr. Pour toutes les explications. Et face à l'épidémie, l'Union européenne commence à s'organiser. 220 millions d'euros seront mobilisés pour financer des transferts de patients entre pays, pendant que les États-Unis, eux, affichent un taux de contamination record, plus de 91 000 cas en 24 heures.
Et à long terme, comment éviter un nouveau virus meurtrier?
La réponse est verte. Il faut protéger l'environnement, les espèces animales et éviter le réchauffement climatique. En effet, Sandy Dauphin, selon un rapport des experts des Nations Unies, l'effondrement de la biodiversité est directement liée à l'émergence des pandémies.
Il n'y a aucune raison que la pandémie de la Covid-19 soit la dernière, prévient Benjamin Roche de l'Institut de Recherche pour le Développement. C'est l'un des experts de l'IPBES qui ont passé en revue des centaines d'études sur les liens entre l'homme et la nature.
C'était une pandémie, on savait qu'elle pouvait arriver. Et on sait également que si on ne fait rien, c'est la première d'une série qui peut être relativement longue.
Chauves-souris, rongeurs, oiseaux, bétail, il existe aujourd'hui 1 700 000 virus inconnus chez les animaux, dont au moins un tiers aurait la capacité d'infecter l'homme. Or, plus on déforeste, plus on développe le commerce de la faune sauvage, x5 en 15 ans, et plus on s'expose aux agents pathogènes des animaux, explique le biologiste.
Toutes ces pandémies, en fait, sont liées directement à ces activités humaines qui, en fait, perturbent le lien entre les microbes qui circulent dans l'environnement, leurs hôtes animaux. Ça veut dire que certains microbes vont commencer à être de plus en plus transmis. Et en même temps, nous, les populations humaines, allons être de plus en plus en contact avec certaines espèces animales qui portent ces microbes, et donc on va être de plus en plus exposés.
D'après ce rapport, il faut agir en amont pour prévenir les prochaines pandémies, étudier les zones à risque, mieux contrôler le commerce de la faune sauvage ou encore lutter contre la déforestation. La prévention coûterait 100 fois moins cher que le coût d'une pandémie.
Les élections présidentielles aux États-Unis sous tension font craindre des émeutes. Dernière à s'en inquiéter, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Dans le journal de 8h sur Inter, nous serons aux États-Unis pour l'une des dernières étapes de la campagne. Et il n'y a guère que la musique pour nous mettre du baume au cœur ce matin. Un disque, concert magnifique du pianiste américain Keith Jarrett donné à Budapest en 2016. Fermez les yeux et savourez, d'autant que c'est peut-être le dernier, Mathieu Culeron.
Keith Jarrett considère ce concert au Béla Bartók National Concert Hall de Budapest comme l'une des références absolues dans sa carrière en solo. Le style est reconnaissable entre mille, piano frappé, petits cris d'énergie brute. Cette performance se veut cependant globalement très différente de ses lives précédents. On se souvient comment l'improvisation lors du célébrissime Köln Concert est devenue sa marque. Là, le processus créatif semble tout autre. L'improvisation est moins présente. Un disque entièrement dédié à la réalisation et la performance. Ballade, errance blues. Ce concert à Budapest est effectivement un grand cru, une sorte de résumé de sa très longue carrière. Un disque qui sort dans un contexte très particulier puisque le pianiste a annoncé qu'il ne remonterait probablement plus sur scène, entièrement paralysé d'un côté suite à un accident vasculaire. Ultime disque live de Keith Jarrett, ce Budapest Concert est à écouter précieusement comme un dernier témoignage d'une des très grandes figures populaires du jazz.
Ça vous, on écoute ce morceau de Keith Jarrett et le silence après Keith Jarrett, c'est encore du Keith Jarrett.
Magique. Merci Marion Lourd. Le Zoom dans 3 minutes, le retour des violences en Côte d'Ivoire à la veille de l'élection présidentielle.